Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Donc, Papillon, ils ont fini en avance, moi je commence en retard. Ce soir, donc, une émission un peu spéciale, parce que, en fait, je ne vais parler que de BD, mais pas de n'importe lesquels, mes BD préférés. C'est-à-dire des BD qui ne sont pas sortis récemment, mais qui m'accompagnent depuis un certain temps maintenant. Donc ce soir dans Qui ou Quoi sur Radio Dio, je vais vous parler de Médère, de Bone et de Dragonhead, du roman graphique, du comics et du manga. En fait, depuis que j'ai commencé cette émission, je me dis que je vais réussir à placer ces BD dont je vais vous parler, en me disant une par-ci, une par-là, et puis concrètement, j'ai toujours trouvé le moyen de parler d'autres livres. Alors j'ai pris le taureau par les cornes, et ce soir, c'est parti. Alors, tout d'abord, dites-vous bien que en vrai, j'en ai un milliard des BD préférés. De Jérôme K. Jérôme Bloch à Gen d'Hiroshima, en passant par Daniel Clowes ou Dylan Orox, bref, ça a été très dur de faire un choix, et vous ne vous exposez pas au fait de suivre un autre numéro de Qui ou Quoi sur ces fameuses BD préférées. La première BD dont je vais parler, c'est Médère de Jean-Christophe Menu, qui est paru à la maison d'édition L'Association. J'en profite pour vous parler aussi un peu de l'association, justement, cette maison d'édition, parce que beaucoup de mes BD préférés sont à l'association, donc ça tombe bien. La SOS, donc, fameuse maison d'édition que j'ai déjà un peu évoquée dans l'émission à travers certaines chroniques de BD et qu'on a cité notamment avec Jonathan et Simon de la Bédothèque quand ils sont venus dans l'émission. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'association, c'est la maison d'édition qui a changé la face de la BD dans les années 90, début des années 2000, en partant du postulat que la BD, c'est une forme de littérature comme une autre, qu'il n'y a pas de différence entre un livre et une BD, et qui a traduit ses concepts concrètement, physiquement, en éditant des BD sous des formats différents par rapport aux tout venants de l'époque, c'est-à-dire que les livres étaient de la dimension d'un roman, ils étaient brochés et plus cartonnés, d'un nombre de pages variable, plus 48 pages, comme avant, parce qu'avant les BD c'était beaucoup 48 pages, et donc tout ça était traité comme le tout venant de la littérature de fiction. À tout ça, ils ont en plus mis en avant deux formes de récits bien spécifiques, la BD autobiographique et l'Oubapo, qui est le pendant graphique de l'Oulipo, à savoir la BD sous contrainte. Ils ont donc mis un gros coup de pied dans la fourmilière, même si, bon, bien sûr, ils n'étaient pas seuls à l'époque, parce qu'il y en avait plusieurs qui faisaient un peu la même chose, on peut citer par exemple les maisons d'édition Frémok ou Ego Comics, mais ce sont les plus connus grâce au succès de Marjane Satrapi et de son Persepolis, une BD autobiographique sur 400 pages, qui est parue à l'association. Un petit détail juste pour dire que l'association s'appelle comme ça parce qu'en fait il s'agit au départ d'une association de plusieurs auteurs qui avaient un même désir et une même conception de faire de la BD. Et donc pendant un long moment, ils ont été, comme dans la chanson de Brassens, tous derrière et eux devant. N'hésitez pas à vous plonger dans le catalogue de l'asso d'ailleurs qui propose énormément de merveilles. Je ne vais pas toutes les citer, parce que comme j'ai dit, j'aurais pu faire une spéciale asso, mais bon, ce sera pas pour cette fois. Revenons donc à la BD dont je voulais vous parler, Médère. Médère, c'est l'œuvre de Jean-Christophe Menu, qui est un de ses fameux fondateurs de l'association. C'est un chantre de l'autobiographie en BD et un grand théoricien de la BD. On lui doit certains coups d'éclat de l'association et pas mal de BD, certaines autobiographiques comme Livret de famille, d'autres plus oulipiennes, toujours le même strip sur 40 pages. et ou des trucs qui sont complètement improvisés, ou qui décrivent le quotidien d'un monde né dans ses rêves, comme le Mont Vérité, un endroit qui revient souvent dans ses BD avec la lune qui lui parle. Après ce topo que je viens de vous faire, normalement, vous devriez vous attendre à ce que Médère, ce soit un roman graphique de 300 pages, peut-être autobiographique. Et bien, que nenni, parce que l'association, qui a surtout eu à cœur d'évoluer, à partir du postulat que je vous ai parlé précédemment, qui a eu à cœur d'évoluer et de marquer l'histoire du médium BD. Et pour ça, ils sont aussi mis à rééditer des œuvres importantes du patrimoine du 9e art, et au passage, ils en ont aussi profité pour rééditer les livres des fondateurs de l'asso. Et Médère en fait partie. Donc, bien avant l'autobiographie ou l'Oulipo, on a affaire là à une espèce d'ovni hallucinant, la seule BD vraiment punk, à ma connaissance, No Limit. Médère, c'est l'anagramme de merde, pour éclairer un petit peu. Et donc Médère raconte l'histoire de Médère, un personnage à la tête toute ronde et sans nez, qui vit dans un asile de fous et qui ne s'exprime que par onomatopées débiles genre haine ou prout. Et qui, en général, sort le matin pour aller faire des trucs dans la rue. Sauf que voilà, Médère, en plus d'être fou, il est super violent. Et ses aventures vont se résumer à une suite de péripéties hardcore en mode provoque, ce qui en fait une des BD les plus trash que je connaisse. Chaque aventure de Médère, si on peut appeler ça une aventure, se déroule en une planche, un peu comme Titeuf ou Gaston Lagaffe. Mais un Gaston Lagaffe hardcore, sale et super provocateur dont on n'est pas prêt de voir l'adaptation au cinéma. Exemple, dans Médère se cherche une mère, troisième page du livre. Médère se lève le matin dans l'asile, il va aux toilettes, il récupère de la merde dans les chiottes avec laquelle il se tartine le visage. Ensuite, il court dans tous les sens, il se rue dehors et il rentre dans une femme enceinte qui vomit littéralement son enfant sous ses yeux hallucinés, et Médère qui se met à crier « Maman, maman !» et il retourne à l'hôpital en ricolant comme un hystérique. Toute la BD est un peu de ce niveau. Et en fait, toutes ces planches sont parues pour la première fois au milieu des années 80 dans des obscures fanzines ou dans Le Psychopathe, qui est une revue de BD humoristique qui paraît encore aujourd'hui, qui est une espèce de pendant à Fluide Glacial. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu. Mais sauf que bah, là, on a affaire effectivement au tout départ à une BD humoristique, mais à ne vraiment pas mettre entre toutes les mains. Faut quand même accepter le mélange pipi-caca-violence-provoque, mais passé ce stade, on a quand même affaire à une BD parfaite. Parce que drôle, transgressive, inventive au niveau graphique et rythmée. En gros, on pourrait dire que c'est une grosse claque dans ta gueule, mais le genre de claque qui fait du bien. Je me souviens avoir découvert Médère dans une bibliothèque. Je ne savais absolument pas ce que c'était dans un bac en dessous. Je me souviens encore de la claque que ça a été. Et que ça reste encore, parce que ça allait tellement loin dans la transgression et dans les trucs que j'avais l'habitude de lire, par rapport aux trucs que j'avais l'habitude de lire, que je me suis toujours dit que c'était pas possible, que les gens qui avaient acheté ça pour la bibliothèque ne savaient pas ce qu'ils avaient acheté. Je ne l'ai vu qu'une seule fois dans une autre bibliothèque, mais enfin aujourd'hui encore, sais gré à ces gens qui me l'ont fait découvrir, cette BD est vraiment, vraiment, je vous encourage à faire de même. C'était les Dirt Bronze pour notre première pause musicale, parce que tant qu'à faire, tant qu'à parler de mes BD préférés, je me suis dit que je pouvais aussi passer mes groupes préférés. Donc c'était les Dirt Bronze avec Do The Thing sur l'album Ultra Glide In Black. On est donc toujours dans Qui ou Quoi sur Radio Duo 89.5. Et je vais continuer à vous parler de livres, de BD. La seconde BD dont je vais vous parler, c'est un second gros morceau pour moi, parce que c'est vraiment une BD que j'adore. Je vais essayer de vous en parler correctement et de vous donner envie de la lire, vous donner envie de lire Bone de Jeff Smith. J'arrête pas je suis tellement impressionné d'en parler que j'en bégaye. Et pour le coup, je sais vraiment pas par quel bout commencer. Bon, je vais commencer classiquement au final, je vais commencer par l'histoire, comme on dit, le pitch. Alors, c'est l'histoire de Fawnbone et de ses cousins Smileybone et Fawnybone. L'histoire, elle commence dans le désert. Fawnbone et ses cousins viennent de se faire chasser de Bonneville parce que Fawnybone a essayé de se faire élire maire de la ville en invitant tous les habitants de la ville à un énorme pique-nique gratuit. Sauf qu'en bon opportuniste radin, il a préféré leur servir de la nourriture périmée sur laquelle il a eu un prix, et résultat, il a filé la courante à toute la ville. Donc, les Bones doivent quitter la ville le plus rapidement possible pour échapper à un lynchage en bonne et due forme. Ils se retrouvent dans le désert, et leur chemin va croiser un énorme nuage de criquets qu'ils vont fuir, et dans leur fuite, ils vont tomber depuis une falaise dans une vallée, mais pas n'importe laquelle. Une espèce de vallée magique dans laquelle les insectes parlent, la neige tombe d'un seul coup comme une espèce de tapis, et surtout, les dragons et les rats-garous existent. À partir de là, vont donc se dérouler les aventures de Fawnbone, qui va donc vivre dans cette vallée, tomber amoureuse d'une fille qui s'avérera être la princesse du royaume, mais je m'arrête là pour l'histoire. Après l'histoire, je vais essayer de vous décrire l'univers de Bone. Parce que les Bones, ils sont dessinés comme des espèces de bibendums. Ils ont un gros nez, une tête ronde et ils sont tout blancs. Ils se ressemblent tous et se distinguent les uns des autres par une particularité facilement identifiable, genre un t-shirt avec une étoile pour Fawnbone ou un gilet pour Smiley. Mais Fawnbone, lui, par exemple, il est tout nu, mais complètement asexué. Pour faire simple, il ressemble à un personnage de dessin animé. Et par contre, ils évoluent dans un milieu d'humains qui sont, eux, dessinés de manière tout ce qu'il y a de plus réaliste. Et ce mix des deux ne dérange absolument personne, ce qui renvoie la BD à plusieurs niveaux d'interprétation et de lecture. Ici, ce qu'il faut voir... Ce qui, moi, me retourne en particulier à chaque lecture, c'est la richesse du monde dans lequel les personnages évoluent. Et le temps que Jeff Smith, l'auteur, prend pour développer son histoire et nous emmener où il veut. L'édition originale de cette BD s'étale sur 11 tomes quand même. Donc quand on rentre dedans, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va en sortir. Ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est dans une BD d'aventure, divertissante et à grand spectacle. Un peu l'inverse de Médéa. Et la mécanique de tout ça est ici totalement maîtrisée. Et il faut bien avouer qu'à ce niveau, elle est d'une efficacité et d'une précision vraiment redoutables. Bone commence sous des auspices plutôt humoristiques qui s'appuient avant tout sur l'apparence des Bones. Et petit à petit, l'auteur introduit un souffle d'aventure et une héroïque fantaisie hallucinante avec une histoire que je n'ai jamais vue autre part. En fait, quand moi je lis Bone, et ça le fait quasiment à chaque fois, je me retrouve dans la peau de l'adolescent que j'étais, qui lisait Le Seigneur des Anneaux et qui se demandait comment il allait bien pouvoir défendre Minas Tirith contre les armées de Sauron, sauf que là, eh ben, c'est mieux, c'est plus fort, c'est plus fou, et en plus c'est pas manichéen, etc. etc. Les 11 tomes ne sont en fait qu'une montée en puissance vers un final réussi. Et moi, bon, j'ai souvent été déçu par des fins de livres, de séries, de films. Ben là, pas du tout. Et ça aussi, c'est important, Bone, parce que Bone n'est jamais décevant. en fait, si je me laisse aller j'ai l'impression que si je me laisse aller, je vais en faire trop. Et si je suis trop enthousiaste, j'ai peur que vous ne trouviez ça tout pourri en le lisant et en créant une espèce d'attente. Et justement, c'est vrai, des fois, quand on crée une attente, on s'expose à augmenter les risques de déception. Et moi, j'ai trop pas envie que vous soyez déçus par Bone. Donc voilà, je vais un peu m'arrêter là pour tout ça. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures BD du monde. J'adorerais que vous la lisiez et qu'elle vous plaise comme à moi, parce que c'est tellement bon quand on rencontre une œuvre qui vous comble à ce point. Enfin, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Vous l'avez compris, je suis assez enthousiaste sur Bone. En fait, je suis quasiment amoureux. Je ne sais pas si je suis le seul à le penser, mais bon, Bone a été auréolé de pléthore de prix aux États-Unis. Alors si vous pensez que c'est important, ben, peut-être que ça va finir de vous convaincre de le lire. Je vais finir cette petite chronique sur Bone en parlant quand même un peu de Jeff Smith, son auteur, parce que là aussi, il y a des choses à dire. En fait, Bone, il est à classer dans les comics parce que son auteur est américain et qu'on a affaire à une BD qui est parue, comme les BD de super-héros, à un rythme régulier, dans des fascicules qui sont ensuite repris en recueil, etc. Mais là où Jeff Smith est différent, et qui en rajoute une couche sur la qualité de cette BD, c'est qu'il fait tout en indépendant. Pas de Marvel, pas de DC Comics, tout est fait à l'huile de coude avec sa femme. Et quand on voit l'ampleur de l'œuvre, eh ben, je peux vous dire que c'est du gros boulot. En fait, c'est de l'auto-édition, mais à un gros, gros niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, en fait, quand on est adossé à une maison d'édition type Marvel, on perd tous les droits sur sa création. Donc c'est un peu dur quand on y a passé plusieurs années de sa vie et tout ça. Donc résultat, l'auto-édition reste la seule voie pour y échapper. Et donc c'est ce qu'a fait Jeff Smith à travers sa maison d'édition qui s'appelle Cartoon Books, puis via Image Comics, qui est une maison d'édition créée par plusieurs auteurs qui ont voulu échapper à ce système mis en place par Marvel et DC Comics, et qui ont porté ce type de démarche. Je voulais quand même noter que, vu qu'il est indépendant et que sa BD a eu du succès, enfin au moins aux États-Unis, il a toujours pas fini de la décliner pour en tirer encore et toujours de l'argent. Au départ, la série est sortie en noir et blanc, en fascicule, après elle est sortie en recueil, 11 recueils, et puis finalement en intégrale. Et puis encore en intégrale, mais en couleur. Et puis vas-y que je te fais des spin-offs, etc., etc. Bref, aujourd'hui la BD n'est disponible qu'en couleur et en intégrale chez Delcourt en France. Ne vous en faites pas, ça n'enlève absolument rien du tout à ce que je viens de dire et à la qualité. Ça fait juste chier les fans complétistes, dont je ne suis pas, mais que sur ce coup, je comprends. Toujours indépendant, Jeff Smith a sorti une autre BD qui s'appelle Razzle, qui est elle aussi hautement recommandable, et il a commencé une autre BD qui s'appelle Tuki en mode pré-publication sur Internet, mais il s'est arrêté rapidement et puis plus rien ne paraît aujourd'hui. C'est pas grave. Parce qu'on peut continuer, on peut lire, on peut continuer à relire, on peut re-relire Bone, une des meilleures BD du monde. Bye. C'était The Devils avec Pray You Parrots sur leur dernier album. Vous êtes toujours dans Qui ou Quoi, l'émission de chronique de bouquins sur Radio Dio 89.5, un jeudi sur deux. On continue de parler de BD, des meilleurs BD du monde, en toute objectivité, bien sûr. La dernière BD dont je vais vous parler ce soir, c'est un manga, un seinen pour ceux qui savent ce que c'est. Mais bon, toutes ces histoires de style en manga et de public cible, c'est pas très intéressant au final, surtout pour un manga comme Dragonhead de Minetaro Mochizuki. Même si j'aime beaucoup cette bande dessinée, là, pour le coup, je sais tout à fait par quoi commencer. Souvent, les mangas, c'est un peu cru, c'est un peu violent, parce que les Japonais n'ont pas du tout le même rapport que nous par rapport à la représentation du sexe et de la violence. Et aujourd'hui, quand je pense à ça, à un manga violent, surtout un manga violent, il y a un manga qui me vient tout de suite en tête, c'est Dragonhead. L'histoire de Dragonhead, elle commence dans le noir. Un adolescent qui se réveille dans le noir, il appelle à l'aide, personne répond. Une fois que ses yeux sont habitués, il voit à côté de lui un corps. À quelqu'un qui est mort. Et là, il se rend compte que le train dans lequel il est a eu un accident. Il se rappelle alors, en mode flashback, qu'il revenait avec sa classe dans un train d'une classe nature et qu'avant de rentrer dans un tunnel, il a aperçu par la fenêtre une lumière rouge dans le ciel et puis là, le noir. L'adolescence dégage, le train a déraillé et tout le monde est mort dans le train. Il sort du train et le tunnel il s'est effondré aux deux extrémités. Il se retrouve coincé sous terre, dans le noir, avec des centaines de cadavres et une chaleur de plus en plus forte. Point de départ donc, coincé sous terre avec des centaines de cadavres qui vont se décomposer dans le noir. Déjà, c'est le truc que limite tu souhaites à ton pire ennemi, et encore. Au final, il n'est pas le seul à avoir survécu, ils sont trois à avoir survécu. Un autre garçon et une fille. À trois donc, coincés sur terre, dans le noir, je me répète, mais c'est important cette histoire de noir. Bien sûr, dans le tas, dans les trois, il y en a un qui va péter les plombs. Il commence à voir des choses qui bougent dans le noir, et puis il commence à devenir complètement fou. À s'acharner sur les morts, et puis la fille, il faut savoir que quand elle se réveille après l'accident, le premier truc qui lui arrive, ben, c'est qu'elle a ses règles. Et puis l'autre, qui est devenu complètement fou, et ben, assez rapidement, il veut la violer. Bref, que du bonheur. C'est vraiment... Ça, c'est que le début, et le manga s'étale sur 9 tomes, et, à mon sens, va de pire en pire. Il y a plusieurs lectures à Dragonhead. Il y a la première, qui est assez superficielle, mais par laquelle on est quasiment obligé de passer, c'est « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le tunnel s'est effondré, c'était quoi la lumière rouge? Est-ce que c'était une apocalypse nucléaire? Un tremblement de terre? Une météorite? Est-ce qu'ils vont survivre? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Sauf que... Ah. Sauf que, bon, moi, je vais sûrement pas vous le dire maintenant. Mais je tiens quand même à vous rappeler, si vous décidez de le lire... que les Japonais, ils n'ont pas du tout le même rapport au fantastique que nous. En France, on a besoin d'expliquer pour se rassurer. Mais en fait, au Japon, pas du tout. J'en veux pour preuve les nombreux mangas qui n'expliquent absolument rien. Par exemple, L'école emportée, un autre manga super violent, qui voit une école primaire transportée dans un futur apocalyptique, mais alors sans aucune explication. C'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis, un autre exemple pour moi assez parlant, c'est Totoro, par exemple. Qui est un esprit de la forêt, mais à aucun moment, les parents ne mettent en doute la parole de leur petite fille qui a vu Totoro. En France, un enfant y voit Totoro, je pense qu'on aurait tendance à le rabrouer et à lui dire d'arrêter de dire des bêtises. Mais au Japon, c'est pas comme ça. Le fantastique existe et puis voilà. C'est une espèce de tradition et vous verrez qu'il y a beaucoup de mangas japonais qui n'expliquent rien. Donc, sur l'explication en fait, sur qu'est-ce qui s'est passé, en fait, n'attendez pas grand-chose de Dragonhead. En fait, cette lecture premier degré de Dragonhead que je viens d'évoquer, elle fait un peu passer à côté du vrai sujet de Dragonhead, qui est la peur. La peur primale qui apparaît quand on est tout seul dans le noir, ou face à un truc tout noir, tout seul. C'est ce truc qui, par exemple, j'ai une amie qui m'en parle assez régulièrement. Dans Blue Velvet de David Lynch, il y a une scène où en fait, ben, il y a des trucs qui font peur, hein, mais il y a une scène où en fait il y a un placard ouvert et en fait on ne sait pas ce qu'il y a dans le placard et c'est ça qui fait flipper, quoi. Mais en fait, Dragonhead, c'est pareil, mais porté à son paroxysme. La peur primale face au noir, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un monstre dans le noir qui va nous sauter dessus? Et puis, ajouter à ça, bah, la peur de mourir. La peur de mourir dans d'atroces souffrances. Et comment l'être humain va réagir face à cette peur? Le courage, la folie, la fuite, la résignation, etc. etc. C'est le cœur de Dragonhead. Au final, ce manga, c'est une expérience à vivre au moins une fois, parce que sous ces dehors de survival violent, l'écho qu'il peut trouver en nous, il est loin d'être superficiel, il est plus que profond, parce qu'on a tous eu peur au moins une fois dans nos vies. Bon, là, comme Bone, Dragonhead a eu plusieurs prix de manga, etc. Bon, voilà, pour ceux que c'est important, hein, ceux pour qui c'est important, peut-être que ça vous poussera à les lire. Dragonhead, c'est l'œuvre la plus connue donc, de l'auteur Minetaro Mochizuki, qui a fait quelques autres mangas qui sont parus en France aussi. Un manga horrifique qui s'appelle La Dame de la Chambre Close, qui est quand même bien flippant, et qui est paru donc, oui, en France, que j'ai déjà dit. Un autre qui s'appelle Meiwan, mais que je n'ai pas lu. Et un dernier qui s'appelle Shisakobe, qui voit l'auteur se détourner des mangas de type industriel, violent, comme Dragonhead, pour raconter une histoire simple et à la portée bien plus universelle et bien plus facile d'accès, un peu comme un Taniguchi, mais pas pareil quand même. Apparemment, Katsuhiro Otomo, l'auteur d'Akira, a dit de lui que c'était le plus talentueux de sa génération. Tout ce que je sais, moi, c'est que Dragonhead, ça déchire, et que celui-là, contrairement aux deux autres dont je viens de vous parler avant, j'arrive pas à le relire parce qu'il me fait peur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, qui ou quoi. J'ai changé la musique du générique de fin. En bon geek, il n'y a pas longtemps, j'ai vu Ready Player One. Et dedans, il y a la musique de Shining. Et je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté la musique de Shining. Donc tant qu'à faire, autant la passer quand je parle de mes BD préférés. Pour mémoire, on a parlé ce soir de Dragonhead, qui est sorti chez Pika, dans des recueils double volume, grand format, qui rendent assez justice à la BD, parce qu'avant c'était paru dans des petits formats bien moins pratiques. Je vous ai parlé de Médère, de Jean-Christophe Menu à l'association, la meilleure BD punk de toute la Terre, et de Bone chez Delcourt, ouais, la meilleure BD tout court, je sais plus quoi dire. Voilà, en tout cas, c'était qui ou quoi ce soir sur Radio Duo. Merci d'avoir écouté, on se retrouve dans deux semaines pour parler de livres, de romans, de documentaires, de guides de voyage ou de livres pour enfants. Bonne soirée. Thank you.
There's Kentucky Fried Chicken in the picnic basket.